Une interpellation qui tourne au fiasco. Le commandant Charcot se lance alors dans une enquête dangereuse et éprouvante, en dehors de tout cadre légal. Une enquête où la science ignore l'éthique. Préparez-vous à basculer dans la faille et à vous confronter au pire de la nature humaine. La faille de Franck Tillier est disponible aux éditions Pocket.
Bonjour, c'est Dominique Rizet. Dans ce podcast en trois parties, nous allons vous raconter, Frédéric Lantieri et moi, l'histoire de Anne-Marie Lecouviour, la mort en héritage. Un épisode de Faites entrer l'accusé, écrit par Agnès Hubschmann, réalisé par Bernard Farron. Bonne écoute.
Des quatre mises en cause, il ne reste désormais plus que Wenceslas Le Cerf, qui défend la version de l'assassinat. Il va même réitérer ses aveux plusieurs fois devant la juge d'instruction. Mais subitement, le 4 mars 2010, près d'un an après le drame, l'ancien videur de boîte de nuit change d'avocat et de version.
Maître Georges Benabès, avocat de Wenceslas Le Cerf.
Il se trouve qu'à ce moment-là, je l'ai rencontré et qu'on a remis le dossier à plat et qu'à ce moment-là, il souhaitait, lui, ne plus dire la même chose. Cette version, c'est de dire on m'a jamais commandité un assassinat, on m'a demandé de venir dans cette propriété pour récupérer des papiers qui prouveraient donc que la seconde épouse de Jeanne Lecouviour détournerait son futur héritage, en tout cas dilapiderait sa fortune.
L'avocat s'étonne que son client ait avoué si facilement, si longtemps et avec autant de conviction un assassinat. Alors Le Cerf explique.
Les gendarmes m'ont dit de toute façon, c'est fini pour toi. Tu vas plonger. Donc, autant que tu dises que ce que les autres ont fait pour que la responsabilité ne soit pas sur toi seul.
Loïc Duguay, puis maintenant Wenceslas Le Cerf. Ces revirements en chaîne ne semblent pas crédibles aux enquêteurs. Le jardinier, par exemple, a été bien trop précis lors de ses aveux.
Christophe Legal, chef d'enquête à la section de recherche de la gendarmerie de Rennes.
Il explique bien que le contrat lui avait été proposé. Donc il s'accuse finalement. Et il explique, il donne des détails, il explique qu'il avait envisagé de saboter les freins de la voiture. Donc il ne peut pas l'inventer ça.
Quant à Le Cerf, il a attendu trop longtemps avant de changer de version.
Adjudant Éric Cuvelier, section de recherche de Rennes.
C'est à 10 reprises qu'il l'affirme. Il l'affirme à 10 reprises, le contrat est clair. Il fallait donc rayer cette personne et bousculer, entre guillemets, M. Lecouviour pour que ce contrat d'un assassinat, ni plus ni moins, soit maquillé en simple cambriolage.
Christine Lecrome, procureure adjointe de la République de Lorient.
On a évidemment des déclarations qui sont parfaitement spontanées dès le départ du dossier. Et puis les semaines et les mois passant, voire une année passant, on va avoir une organisation de la défense de façon à ce que chacun raconte une même version des faits qui va correspondre à la version qui est développée par Josiane Sidaner dès le début du dossier.
Maître Philippe Billot, avocat des enfants d'Anne-Marie Lecouviour.
Ça a été inventé petit à petit de toutes pièces. On a échafaudé une thèse vers laquelle on arrivait à un cambriolage qui aurait mal tourné.
Les gendarmes pointent les invraisemblances de cette version unanime.
Christophe Legal, chef d'enquête à la section de recherche de la gendarmerie de Rennes.
Si ça se limitait à un simple cambriolage, pourquoi ne pas venir durant l'absence du couple Lecouviour, puisqu'ils sont partis pendant 3 ou 4 mois, on va dire durant l'hiver, à leur propriété de Vence. Donc il était très facile de venir faire le cambriolage à la recherche de documents dans une maison inoccupée.
Les enquêteurs s'étonnent aussi d'avoir découvert sans problème les dispositions testamentaires que les cambrioleurs, eux, n'avaient pas trouvées à la chaînée.
On les a trouvées très facilement, elles n'étaient pas cachées. Elles étaient dans le bureau, tout simplement, où étaient posés les bijoux. Mais ce bureau-là n'a pas été fouillé. Aucun tableau n'a été bougé, aucun ne voyait. Il n'y a pas eu de recherche de coffre. Il y a tous ces petits éléments mis bout à bout qui nous font plus pencher sur la thèse de l'assassinat.
Reste la personnalité de la commanditaire. Selon l'accusation, Josiane Lecouviour n'est pas toujours aussi douce et généreuse que ses avocats le prétendent.
Christine Lecrome, procureure adjointe de la République de Lorient.
C'est une femme qui est tout en complexité, ambiguïté, parce que c'est quelqu'un de très fort. Manifestement, lors de la garde à vue, elle l'a démontré. C'est une garde à vue qui a été extrêmement difficile, parce qu'elle s'est déroulée de nuit, où elle était fatiguée. D'ailleurs, on voit, aux questions des enquêteurs, on lui dit « Mais réveillez-vous, Madame Sidaner ?» On voit qu'elle est fatiguée. Hein. Une garde à vue extrêmement difficile, ça c'est quelque chose qui est indéniable, mais sur laquelle elle ne lâchera rien finalement avant qu'on ne lui apporte la preuve matérielle de son implication dans les faits.
Maître Arnaud Collomb de Franciosi, avocat de Catherine, la fille de Jeanne Lecouvioure.
C'est une mondaine. C'est la femme agréable, lisse, tout à fait courtoise, etc. etc. Bon. Et c'est d'elle dont la femme de ménage qui a travaillé pendant des années pour elle, alors même qu'il y a un petit problème, se fait virer du jour au lendemain à manu militari et qui dit « il vaut mieux être de son côté que contre elle, parce que si vous êtes contre elle, vous êtes détruite ». Voilà. La vraie Josiane, c'est celle qui montre son caractère lorsqu'on s'oppose à elle.
Et justement, entre la belle-fille Josiane et la belle-mère Anne-Marie, cela fait des années que les hostilités sont ouvertes.
Maître Thierry Fillon, avocat de Josiane Lecouvioure.
Il s'agissait de deux femmes avec un tempérament assez fort, qui n'envoyait pas les autres dire ce qu'elle pensait, donc il y a eu des étincelles, assurément.
En privé avec son mari, Josiane aurait donné un drôle de surnom à sa belle-mère.
Benoîte Hamon, la fille d'Anne-Marie Lecouvioure.
Et j'ai su qu'ils n'appelaient pas leur belle-mère, mais la belle-merde. Et donc, c'est vrai que ça a été... ça a été douloureux et que je me dis qu'il y avait quand même une haine pour en arriver à des termes comme ça venant d'adultes toujours, je dis.
Maître Jean-Jacques Leroux, avocat de Josiane Lecouvioure.
Non mais Josiane n'a pas des mots très tendres, mais Josiane est assez... Josiane est assez vrac, hein. Elle est assez brute. Est-ce que je peux dire que oui, dans son langage, dans sa formulation, elle est un peu brute de décoffrage quand même. Hein. Mais c'est de la provoque, c'est parce qu'elle a envie d'être comme ça, c'est parce qu'elle est franche, elle est nette, elle est nature.
Devant la juge d'instruction, Josiane charge d'ailleurs sans hésiter Anne-Marie Lecouvioure.
Josiane vient dire que Anne-Marie est en train de dilapider la fortune de Jeanne, est en train de capter l'héritage, etc., etc.
Maître Philippe Billot, avocat des enfants d'Anne-Marie Lecouvioure.
Que c'était une mauvaise femme, qu'elle n'aimait personne.
C'est vrai que de voir cette haine qui provenait de Josiane Lecouvioure à l'encontre de maman a été très étonnant. Parce que pour dire que maman était dépensière, c'était pas possible. Je veux dire, ils ont gardé leur capital intact. Malheureusement, s'ils avaient tout dépensé, maman serait vivante.
Et Josiane va encore plus loin. Elle explique à la juge que sa belle-mère serait même responsable des disputes et de la brouille entre Jeanne et ses enfants. Au fur et à mesure que mon beau-père vieillissait, Annette avait de l'emprise sur lui. Elle s'occupait des comptes et lui la laissait faire. Elle a commencé à nous écarter. Pourtant, ce n'est pas l'avis du patriarche.
Christine Lecrome, procureure adjointe de la République de Lorient.
On l'interroge hein, sur ce qu'est sa vie avec Anne-Marie Adriano. Est-ce qu'il est sous sa coupe ? Est-ce qu'elle porte la culotte, en gros, dans le couple ? Et il indique que ce n'est absolument pas ça. C'est une entente parfaite.
Christophe Legal, chef d'enquête à la section de recherche de la gendarmerie de Rennes.
Et on n'a pas l'impression que Anne-Marie Lecouvioure avait la main mise sur Jeanne Lecouvioure. C'était absolument pas le cas.
Jean-Charles Hamon, Josiane et les fils de Jeanne Lecouvioure ont insinué, voire carrément déclaré, que votre mère était dépensière.
Ah oui, ça a été l'horreur. Non seulement notre mère a été tuée, mais pendant les 4 années d'instruction, on a eu droit à ce discours. Le dossier d'instruction avec l'enquête financière démontre que c'est absolument pas vrai. Qu'au contraire, au fil des années, le couple augmente son capital, parce qu'il n'arrive pas à dépenser ou ne souhaitent pas dépenser les intérêts qui touchent de leur placement. Et moi, j'ai toujours vu ma mère et mon beau-père vivre simplement. Pas de folie dans leur vie. Maman n'était pas dépensière.
Et ils sont aussi persuadés, les enfants de Gênes, que vous, les enfants d'Anne-Marie, vous pourriez, en tout cas, vous auriez des vues sur l'héritage.
Écoutez, l'héritage qu'on aurait éventuellement pu toucher, c'était celui de maman, mais sûrement pas celui de Gênes. Maman, au moment de sa mort, eh ben, elle était en pleine santé. Alors, s'il avait fallu mettre nos vies en stand-by en attendant un héritage qui serait arrivé dans des périodes... Alors, on vivait pas, quoi. C'est complètement idiot.
Les enfants de Gênes ont aussi pensé que votre mère avait fait tout pour faire barrage entre son mari et ses enfants.
Mais non. Ils n'ont pas eu besoin de maman pour se fâcher avec leur père. Ils se sont débrouillés tout seuls.
Est-ce que vous avez une estimation du patrimoine de Gênes et d'Anne-Marie ?
Bah écoutez, oui, il est dans le dossier d'instruction. Hein. Les avoirs à la banque de Gênes s'élèvent à 9 millions et quelques d'euros. Et puis, il y a les deux maisons. Celle de Grandchamp, qui est estimée à 450 000 euros, et celle de Vence à 750 000.
Voilà. Donc un peu plus de 10 millions d'euros.
Un peu plus de 10 millions d'euros.
Quelle est votre thèse sur ce drame ? Un assassinat ou un cambriolage qui a mal tourné ?
Non, l'assassinat, pour nous, les enfants, il est évident dès le départ. C'était pas un cambriolage, c'était évident. Et qui pouvait en vouloir à maman à ce point-là ? Mais il n'y avait qu'une seule réponse. Les enfants de Gênes.
Depuis l'arrestation de sa femme, Jean-Jacques Lecouviour a emménagé à Rennes près du centre pénitentiaire pour femmes.
Jean-Jacques Lecouviour, fils aîné de Gênes Lecouviour, dans l'émission Prise directe du 21 septembre 2010.
Au début, comme je ne pouvais pas la voir, je faisais le tour par ici et puis klaxonnais deux ou trois coups pour lui dire que bah, je passais par là, quoi.
Maître Jean-Jacques Leroux, avocat de Josiane Lecouviour.
Il a fait l'acquisition d'un appartement à Rennes pour pouvoir être sur place, de manière à pouvoir aller chaque matin que le bon Dieu le permettait, c'est-à-dire que l'administration pénitentiaire le permettait, aller voir, aller rendre visite à son épouse à la maison d'arrêt. Il faisait partie, du paysage de la maison d'arrêt.
2 ans après la mort d'Anne-Marie, le clan Lecouviour s'est enfin ressoudé. Père et fils ont fait la paix.
Philippe Lecouviour, fils cadet de Gênes Lecouviour, dans l'émission Prise directe du 21 septembre 2010.
Bon, il a fallu qu'il y ait ce drame malheureux pour qu'on puisse se rapprocher. On s'est rapproché d'une manière mais alors tout à fait naturelle. Maintenant, il est dans l'évidence d'avoir manqué de dialogue. D'avoir manqué cette vérité avec nous.
Eugène Lecouviour a subitement retrouvé le souvenir d'une anecdote qui arrange bien la défense de Josiane.
Maître Philippe Billot, avocat des enfants d'Anne-Marie Lecouviour.
Ah, j'ai oublié au bout d'un an et demi de vous préciser qu'après l'agression dont a été victime mon épouse, l'un des agresseurs lui a demandé « ça va, madame ». Et cette petite phrase du « ça va, madame » a été sciemment exploitée, ils ont eu raison par la défense, pour dire ben, « quand on vient pour faire un meurtre, on ne demande pas ».
Et le patriarche est même venu en ce printemps 2011 soutenir la demande de remise en liberté de Josiane, aux grandes dames des enfants d'Annette.
Thierry Hamon, fils d'Anne-Marie Lecouviour.
L'avocat de Josiane a même précisé au juge « Regardez, toute la famille Lecouviour est là pour soutenir ma cliente. » C'est l'horreur.
Le 26 août 2011, Josiane Lecouviour est libérée et placée sous contrôle judiciaire. Le procès approche. Soudain, à quelques semaines de l'ouverture, c'est de nouveau le clash dans le clan Lecouviour. Eugène et sa fille Catherine changent d'avocat et se désolidarise de la défense de Josiane, menée par Jean-Jacques et Philippe.
Maître Michel Peignard, avocat de Philippe Lecouviour.
Ils n'étaient plus d'accord pour estimer que sa belle-fille ne s'était contentée que du cambriolage. Il estimait qu'elle était à la au-delà.
Le père Lecouviour reproche à ses fils de s'être servi de lui.
Maître Arnaud Collomb de Franciosi, avocat de Catherine, la fille d'Eugène Lecouviour.
Ils avaient mis la main sur Eugène Lecouviour de façon à ce que Eugène Lecouviour vienne dédouaner sa belle-fille de la culpabilité qui allait être éventuellement la sienne. En réalité, on lui demandait de soutenir la personne qui était à l'origine du décès de la femme avec laquelle il avait vécu pendant 35 ans. Donc là, il y a un grand écart qui n'était plus possible.
Monsieur Lecouviour, que s'est-il passé juste avant le procès ?
Ben, nous apprenons par un courrier, par un avocat interposé, que notre père change de position. Et il n'y a pas que lui qui change de position, puisque notre sœur également change de position. C'est très interrogatif, puisque là, c'est vraiment une forte influence que mon père, âgé, fragilisé aussi par les événements, a subi énormément de choses.
Ça veut dire que c'est votre sœur qui l'entraîne là-dedans ?
Je crois que c'est une grosse manipulation qu'il y a eu derrière tout ça.
Et c'est quoi l'intérêt ?
Il y avait certainement des intérêts personnels liés à des intérêts financiers.
Vous êtes partie civile au procès ? Dans quel but, en fait ?
À travers cette partie civile, on voulait comprendre.
Pour vous, c'était le moyen d'avoir accès au dossier, c'est ça ?
D'avoir accès au dossier, oui.
Et donc, justement, à l'approche du procès, dans quel état vous êtes ? Dans quel état d'esprit vous êtes ?
C'est pas...
Il n'est pas rassuré du tout. Il en est pas un peu assez angoissé, puisque le fait que ton père et ta sœur aient changé de conseil. On se doutait que le procès allait être assez lourd à vivre.
Qu'est-ce que vous craignez à ce moment-là ?
Je voyais donc la défense de Josiane fragilisée.
Quand le procès s'ouvre le 21 mai 2012 devant la cour d'assises de Vannes, les quatre accusés parlent d'une seule voix. C'est un cambriolage qui a mal tourné. Les jurés ont 15 jours pour se déterminer, 15 jours pour trancher. La mort d'Anne-Marie Lecouviour a-t-elle été orchestrée ? Le verdict ne satisfera ni les partisans du oui, ni les partisans du non. 3 ans après le drame, devant la cour d'assises du Morbihan, les deux familles Lecouviour et Hamon se retrouvent, mais toujours plus divisées. Wenceslas Le Cerf et Guénaud Lémadé sont dans le box quand Josiane Lecouviour et son jardinier comparaissent libres. La tension est palpable.
Thierry Hamon, fils d'Anne-Marie Lecouviour.
Vous avez cette femme qui a contribué à la mort de votre mère, qui est là en train de sourire, discuter et pavaner. C'est pas évident. Si jamais elle s'était mise à me sourire en me regardant, mais j'étais capable de péter un câble.
À l'intérieur de la salle d'audience, la travée centrale sert de frontière.
Les deux fils Lecouviour étaient à gauche. La fille, le père, mon beau-père et nous étions à droite.
Maître Philippe Billot, avocat des enfants d'Anne-Marie Lecouviour.
On ne se parlait pas et surtout... Le père et la fille n'évoquaient rien et ne parlaient pas du tout à leur frère.
Le ton est donné. D'un côté, Josiane Lecouviour, mal à l'aise, est assise sur une chaise.
Maître Arnaud Collomb de Franciosi, avocat de Catherine, la fille d'Eugène Lecouviour.
Je l'ai trouvée légèrement méprisante, en l'espèce. Elle m'a pas paru très sympathique. C'était un peu « comment osez-vous me poursuivre devant une cour ?» Il y avait un peu ça.
De l'autre côté, dans le box, les hommes de main, Wenceslas Le Cerf et Guénaud Lémadé. Ils doivent répondre à la question clé « qui a tué Anne-Marie Lecouviour ?»
Benoît Hamon, la fille d'Anne-Marie Lecouviour.
Au procès, on s'est dit « on va enfin savoir où au moins quelqu'un va-t-il craquer ?» Quand on interrogeait Madé, on avait l'impression d'avoir l'idiot du village. Alors on se dit, où il joue très bien, il est l'idiot. Et Le Cerf, par contre, on sentait bien qu'il essayait de jeter la faute sur Madé.
Maître Michel Peignard, avocat de Philippe Lecouviour.
Quand on a entendu les deux participants directs qu'étaient Madé et le Cerf, on se demandait comment elle avait fait pour décéder, puisque aucun des deux n'avait fait quoi que ce soit pour la conduire à être littéralement rubanée.
Les avocats de la défense racontent l'agression du couple Lecouviour comme une expédition de bras cassés.
Maître Thierry Fillon, avocat de Josiane Lecouviour.
Ils ont commencé par détruire une baie vitrée avec un bruit effarant, ce qui aurait évidemment dû interpeller les gens qui étaient à l'intérieur, ce qui était le contraire de ce qu'ils auraient dû faire en tant que cambrioleurs pour surprendre des gens, ou en tout cas ne pas être surpris eux-mêmes. Et ensuite, je pense qu'ils se sont retrouvés face à une femme, qui n'est pas une jeune femme, mais qui est une femme qui a une constitution physique assez importante, et qui, à juste raison, eh bien, ne supporte pas l'intrusion, a peur sans doute, et se défend. Et je pense qu'ils vont se trouver effectivement confrontés à cela, et que ça explique cette réaction qui est totalement irrationnelle, inexplicable.
Et puis, c'est en rubanage.
Maître Jean-Jacques Leroux, avocat de Josiane Lecouviour.
De la racine des cheveux jusqu'à la pointe du menton, c'est quelque chose de totalement invraisemblable. Hein, on imagine quelqu'un qui s'affole, qui entoure. C'est quelque chose qui n'est pas raisonnable du tout.
Cette impression d'équipée maladroite et totalement incontrôlée arrange bien la thèse de Josiane Lecouviour, celle du cambriolage qui a dérapé de bout en bout. Depuis le mauvais casting du départ, jusqu'à l'acte fatal.
Les choses s'enfilent comme ça les unes derrière les autres. C'est Josie qui a l'idée d'aller chercher des papiers, qui s'en confie à Loïc Duguay, qui lui demande presque de s'en charger. Lui n'est pas capable de s'en charger, va croire trouver quelqu'un en la personne de ce 26 Le Cerf, qui lui n'est pas capable, mais qui va recruter quelqu'un d'autre. Et puis l'un et l'autre vont se monter le col, vont se pousser. Et puis c'est comme ça, petit à petit, de fil en aiguille, ils vont y arriver. Josie a été dépassée. Elle n'a pas voulu la mort.
Devant le silence des hommes de main, les projecteurs se braquent sur l'ancien jardinier, Loïc Duguay.
Christine Lecrome, avocat général.
On s'est dit que le maillon faible, c'était Duguay, le jardinier. Donc on dit, lui va peut-être craquer au moment du procès.
Positionné d'ailleurs dans la salle d'audience, on le met devant Josiane Sidaner, de façon à ce qu'elle ne puisse pas la voir sous les yeux, certainement. Hein, mais en même temps, assez souvent, Loïc Duguay va se retourner pour chercher le regard et l'approbation de Josiane Sidaner. C'est quelque chose, je crois, que tout le monde a vu.
Maître Arnaud Collomb de Franciosi, avocat de Catherine, la fille de Jeanne Lecouviour.
Tout le monde s'est dit qu'il a été téléguidé par la défense de Josiane Lecouviour et qui dit exactement ce que Josiane Lecouviour... Vous savez, M. Duguay, c'est un peu le pantin au bout des fils tenu et par Mme Josiane Lecouviour.
Loïc Duguay, un pantin. Pour les parties civiles, cela va encore plus loin. Le jardinier serait carrément à la solde des Lecouviour. Benoîte, la fille de la victime, ne peut pas expliquer autrement le fait que Madame Duguay ait pu payer un avocat parisien à son mari.
Benoîte Hamon, la fille d'Anne-Marie Lecouviour.
Une journée de procès avec un avocat parisien, on doit tourner aux alentours dans une fourchette de 7 à 10 000 euros par jour. Donc en aucun cas, elle n'a pu assumer. Donc elle a eu un avocat commis d'office les deux premiers mois, puis il y a eu cet avocat parisien qu'elle a dû trouver par enchantement du premier coup, puisqu'il est resté jusqu'à la fin, Maître Bonneau, et qui a été rémunéré par la famille Lecouviour. Je n'en ai pas la preuve, c'est une certitude.
Maître Bonneau, la fille d'Anne-Marie Lecouviour, Benoît Hamon, affirme très clairement que ce sont les Lecouviour qui payent la défense de Loïc Duguay, en fait, très clairement, qui payent vos honoraires.
C'est une accusation très grave, et c'est évidemment faux. C'est totalement interdit. On ne peut pas être payé par un co-accusé. C'est diffamatoire, mais c'est aussi assez blessant. Assez blessant pour moi et aussi pour l'épouse de Loïc Duguay, Nadine Duguay. C'est quelqu'un qui a soutenu son mari, qui s'est engagé dans des crédits, qui a aussi bénéficié de la solidarité familiale. C'est la famille qui a soutenu Loïc, à la fois moralement
et aussi
financièrement.
Quel est l'enjeu de ce procès pour votre client ?
L'enjeu est clair. Il ne faut absolument pas que les jurés retiennent la complicité d'assassinat, car Loïc Duguay encourt la perpétuité.
Et comment il se présente à l'audience ?
Alors, il se présente en assumant sa part de responsabilité, en étant torturé, ayant un sentiment de culpabilité immense. Le père de famille, de 3 enfants, l'homme sans histoire, un homme normal, qui avait, mais alors, toutes les chances de vivre une vie sans connaître de cour d'assises.
Et alors, comment vous organisez sa défense ?
Il apparaît qu'il n'y a aucun élément matériel qui laisse entendre la commission d'un assassinat.
Il y a quand même ces 6 mètres de ruban sur le visage d'Anne-Marie Lecouvieux, 9 mètres au total avec les mains et les pieds.
On n'a besoin que de 10 cm pour étouffer une personne. On n'avait pas besoin de 9 mètres. Donc ça peut laisser aussi entendre qu'il y a eu un dérapage qui concerne les personnes qui étaient sur les lieux, mais pas ceux qui, comme mon client, les ont recrutés.
Le témoignage de votre client, en fait, il est primordial à ce procès. Et que dit-il ?
Il réaffirme ce qu'il avait déjà dit devant les juges d'instruction pendant 3 ans, qu'il n'y avait jamais eu aucune demande d'assassinat.
La cour doit examiner un assassinat. Mais c'est à un déballage complet des querelles familiales qu'assistent les jurés. Au cours des audiences, il n'est question que d'argent, encore d'argent et toujours d'argent, à l'euro près. Le patriarche, Eugène Lecouvieux, vient à la barre très digne pour rendre hommage à son épouse. Quand soudain, sa belle-fille Josiane demande la parole.
Maître Philippe Billot, avocat des enfants d'Anne-Marie Lecouvieux.
Josiane s'est levée pour dire « Je suis responsable de tout le mal que j'ai fait et je demande pardon à mon beau-père. » Mais c'était tellement mal exprimé que nous étions plus que dubitatifs. Il manquait non seulement la foi, la sincérité. Ce sont des excuses plates.
Le patriarche retourne s'asseoir, courbé sur sa canne, sans répondre. Pour soutenir sa belle-sœur, Philippe Lecouvieux vient à son tour à la barre.
Christine Lecrome, avocat général.
Philippe Lecouvieux va faire un état précis de tous les chèques émis par Anne-Marie Dréhano, pointant l'intégralité des chèques, y compris des chèques de l'ordre de 90 euros.
Thierry Hamon, fils d'Anne-Marie Lecouvieux.
Elle lui a dit, mais attendez, je vois un chèque de 20 euros au nom d'Enzo. Et là, mon frère s'est levé et il a dit, oui, c'est un petit vêtement pour l'anniversaire de son petit-fils. La honte.
Le fait de pointer tous ces chèques reflète à l'évidence un esprit particulier. Ça confirme le fait que ce problème d'argent, ce problème d'héritage, était quelque chose qui suintait. Il n'y a pas d'autre mot, qui suintait dans cette famille de façon quotidienne, que Josiane Signaner a été baignée là-dedans.
L'argent, c'est ce qui aura empoisonné la vie des Lecouvieux et qui sera au cœur de ce procès jusqu'au bout. Après 2 semaines d'audience, l'affaire Lecouvieux touche à sa fin. Pour l'avocate générale, le responsable supposé de l'enrubanage et la commanditaire sont pareillement coupables. Elle requiert 20 ans de réclusion criminelle contre Josiane Lecouvieux et contre Wenceslas Le Cerf. Mais la défense de Josiane ne s'avoue pas vaincue.
Maître Thierry Fillon, avocat de Josiane Lecouvieux.
Elle est dans l'angoisse d'être condamnée pour complicité d'assassinat. Et passer et devenir un assassin, ce qu'on proclame quand même depuis plusieurs années au moment du procès, c'est pour elle moralement particulièrement difficile. Dans nos plaidoiries respectives, on va effectivement s'échiner, bien plus que sur la personnalité, à faire tomber cette qualification.
C'est l'heure du verdict. À la première question, celle de l'assassinat, la réponse est non coupable.
C'est comme les nerfs qui lâchent et on est complètement soulagé. Donc là, on est persuadé qu'on a, on a emporté le morceau.
Maître Michel Peignard, avocat de Philippe Lecouvieur.
Et ça a été, mais alors, l'effondrement total quand ils ont entendu la peine.
Venceslas Le Cerf et Guénolé Madé sont condamnés respectivement à 18 ans et 15 ans de réclusion criminelle. L'intermédiaire Loïc Duguay prend 8 ans. Quant à Josiane Lecouvieur, celle vers qui les regards se sont tournés pendant tout le procès, la cour d'assises la condamne à 15 ans pour complicité de séquestration et vol avec violence.
C'est un peu une victoire à la Pyrrhus, puisqu'on a satisfaction sur la qualification, mais la peine est quand même très sévère.
Maître Arnaud Collomb de Franciosi, avocat de Catherine, la fille de Jeanne Lecouvieur.
La peine, c'est la peine de l'assassinat, c'est clair.
Monsieur Hamon, 15 ans pour Josiane Lecouvieur, alors que l'assassinat n'a pas été retenu. Comment vous avez réagi ?
La peine, ça ne nous intéressait pas. Tout ce qu'on voulait, c'était la vérité. Et là, le résultat, on le prend comme une gifle, en fait. C'est très dur. C'est très dur. Le fait que l'assassinat ne soit pas retenu, c'est vraiment très, très, très dur. Quelque part, je me demandais, mais à quel moment on parle de maman ? Et on a beaucoup parlé d'argent. Et je peux comprendre que les fils de Gênes étaient présents, bon, hélas, en tant que partie civile, et je peux comprendre que l'attention des jurés était diluée, perturbée par toutes ces histoires de fric qui étaient déballées, en fait, en plein tribunal. Et puis, rapidement, j'ai compris que, de toute façon, quoi qu'ait pu être le résultat de ce procès de Vannes, on serait allé en appel, donc c'était finalement un procès pour rien.
14 mai 2013, le procès en appel s'ouvre devant la cour d'assises de Rennes. L'histoire se répète, à une petite différence. Cette fois, ce n'est plus seulement le procès de Josiane, c'est aussi symboliquement celui des fils Lecouvieur.
Thierry Hamon, fils d'Anne-Marie Lecouvieur.
Il y a mon beau-père qui a témoigné en disant au président, monsieur le président, ils m'ont tout pris, mes fils m'ont tout pris, je n'ai même pas de quoi m'acheter une baguette de pain. Voilà.
C'est-à-dire que du jour au lendemain, cet homme qui avait les moyens d'assurer son existence d'une certaine manière se retrouve sans rien.
Devant la cour médusée, le patriarche accuse ses deux fils.
Philippe a profité du désarroi de son père pour prendre la main sur lui, prendre la main sur la gestion de ses biens, et par ce biais-là, va définitivement capter la totalité de la succession de Jeanne Lecouvieur.
Alors les langues se délient. Ce que certains avaient pensé tout bas au premier procès se dit tout haut.
Josiane Lecouvieur n'aurait jamais commis ce qu'elle a fait, alors, ou un cambriolage ou un assassinat, s'il n'y avait pas eu Jean-Jacques et Philippe derrière. Je ne dis pas qu'ils avaient conscience de cela, mais le climat qu'ils ont créé, l'espèce de huis clos qui s'est fait autour de cela, a fait qu'elle s'est sentie autorisée à faire ce qu'elle a fait.
Au moment du réquisitoire, l'avocat général va d'ailleurs tenir un discours virulent.
Maître Philippe Billot, avocat des enfants d'Anne-Marie Lecouvieur.
L'avocat général s'est levé et voyant le mari de Josiane dans la salle, assis, et son beau-frère Philippe Lecouvieur, s'est permis de leur dire « Messieurs, vous êtes les vrais responsables de ce drame. Vous avez armé la main des assassins et vous êtes, pour moi, sur le plan moral, des coupables. »
Le verdict est sans appel. 16 ans pour Josiane Lecouvieur, qui est pourtant toujours acquittée de complicité d'assassinat. Le cerf et le jardinier prennent eux aussi plus cher, 20 ans et 9 ans.
J'imagine que ce procès en appel a dû être très difficile pour vous, parce qu'en fait, vous avez été montré du doigt. Très clairement, par l'avocat général, qui vous a donner une responsabilité morale dans ce meurtre ?
Nous avons été traités, Jean-Jacques et moi, d'être méprisables. C'est quand même quelque chose qui est terrible à supporter. Je pense que l'avocat général était sorti de son rôle, s'adressant à des témoins dans le public. Je crois qu'on n'a pas vu ça dans une cour d'assises depuis longtemps.
Il a donc été beaucoup question d'argent. Et justement, cet héritage, ça représentait quoi pour vous ?
Je crois que dans une famille, il y a la place des enfants. Il y a la place des enfants.
Et vous aviez l'impression, en fait, qu'on vous déniait ce rôle d'enfant ?
Lorsque vous avez des discussions avec vos parents sur ces sujets-là, on vous dit les choses. Mais on ne vous cache rien. J'aurais préféré que mon père me dise, voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement. Mais moi, je lui ai toujours dit, papa, que tu protèges ton épouse jusqu'à la fin de ses jours, il n'y a pas de problème. Mais que tu ne dises pas à tes enfants, dans ce travail familial que nous avons réalisé, ce qui se passe pour le futur. Voilà, c'était connaître le futur, c'était exclusivement ça.
Et qu'attendiez-vous de ces discussions avec votre père ? Vous espériez quoi ? Qu'ils vous disent « oui, tu es mon fils » ? Vous attendiez quoi ?
Une reconnaissance au niveau des... par rapport aux affaires familiales, à leur réussite industrielle. Chose qu'ils n'ont pratiquement pas ressentie.
Et votre père, il ne savait pas vous montrer son affection ?
Pas de la bonne manière.
Et c'est ça que vous cherchiez, en fait ? C'est ça que vous recherchiez à travers ces discussions ?
Oui, évidemment, oui. Évidemment.
Côté Le Couviure, la succession reste un sujet douloureux. Après le procès, Jean-Jacques et Josiane se sont séparés. Côté Hamon, les trois enfants d'Anne-Marie sont soudés plus que jamais.
Vous venez d'écouter le dernier épisode de Faites entrer l'accusé consacré à Anne-Marie Le Couviure, La mort en héritage. Si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode de votre podcast Faites entrer l'accusé. Bonjour, c'est Dominique Rizet. Une poignée de secondes, voilà tout ce qu'il faut pour qu'une vie bascule. Juste une poignée de secondes. Un sursaut, un instant où le destin bifurque dans une direction ou dans l'autre.
Sur le coup, je pensais pas qu'il était mort parce que je voyais pas de sang, on voyait rien quoi en fait. Sébastien s'est jeté sur son père.
L'affaire Grégory, l'affaire Daval, l'affaire Cahuzac... Vous les connaissez toutes, ça fait 40 ans que je vous raconte ces destins brisés. Aujourd'hui, dans l'instant où, découvrez les confessions de ceux qui sont au cœur de ces affaires. Ils me racontent et vous racontent ce qu'ils ne pourront jamais oublier.
L'instant où, un podcast BFM TV raconté par Dominique Rizet.